Regardez voir. La photo sur France Inter.
Bonjour, pour ouvrir Regardez voir et vous saluer, je vous propose d'être un instant, juste un instant, un bonobo. Ou du moins, de vous plonger dans la photo d'Isabelle Munoz qui est sur la page Regardez voir avec franceinter.fr. Isabelle Munoz est avec vous cet après-midi.
Il y a beaucoup des images qui vraiment me touchent, mais il y a une surtout qui pour moi est importante parce que dans cette image, on voit deux bonobos qui s'embrassent. Et ils s'embrassent comme nous nous embrassons. Quand on s'embrasse et on ferme les yeux pour sentir l'autre, ça veut dire que tu es en train de sentir quelque chose. Et quand j'ai vu cette image, j'ai dit, mais vraiment, ils sont comme nous. On ferme les yeux pour pouvoir sentir. Alors je pense que dans cette image, je vois l'amour, je vois la sensualité aussi, et comment ils sont capables de sentir comme nous, et nous comme eux.
La sensualité est dans les photos d'Isabelle Munoz, dans sa voix, dans les mots choisis en français. Isabelle Munoz est une grande photographe espagnole. Elle est accompagnée d'une jeune photographe espagnole, Andrea Santolaya. Mais avant tout, on file vers la Chine avec la photographie évidemment.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Je dois vous raconter que je suis allée au Mérignac Photographique Festival en octobre l'année dernière. Là-bas, j'ai rencontré Isabelle Munoz, Andrea Santolaya et Tian Haifeng, un photographe chinois qui a produit une très belle série sur le train vert, The Green Train. Non seulement les photos sont saisissantes car elles disent les conditions de vie des Chinois les plus pauvres, mais le parcours de vie de ce photographe est incroyable. Il s'appelle donc Tian Haifeng et j'ai eu la chance d'être accompagnée pour nos échanges par un jeune homme chinois, étudiant à Bordeaux, interprète. Il s'appelle Tian Yago et c'est parti.
Alors bonjour, je suis un photographe qui vient de Wuxi. Je m'appelle Tian Haifeng et je dois avoir cette année 49 ans.
Précisez-nous où se trouve cet endroit que vous avez nommé qui s'appelle Wuxi.
Wuxi se trouve à peu près à 120 km de Shanghai, qui est aussi pas très loin de Suzhou.
Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est une grande ville? Est-ce que c'est la campagne? Est-ce que ce sont des montagnes? Quel est le paysage?
Wuxi est une ville assez jolie dans son paysage et elle possède de l'eau, la montagne, et économiquement elle est assez élevée dans la Chine et on peut considérer que Wuxi est une grande ville en Chine.
Est-ce la première fois que vous êtes en France?
Oui, c'est la première fois que je viens en France et je suis très content de venir à Mérignac et d'exposer mes photos, et je vois les enthousiasmes des gens qui me rendent très heureux.
Depuis quand êtes-vous photographe?
Pour parler de en tant que photographe, je dirais que c'est depuis le jour de naissance de ma fille, puisque je l'enregistre tous les jours de sa vie, de comment elle grandit, et finalement c'est ce jour-là que je deviens photographe.
Quel âge a-t-elle, votre fille?
Ma fille est née en 1995, donc aujourd'hui elle a 22 ans.
Donc si je comprends bien, vous étiez un photographe amateur en documentant la vie de votre fille, mais vous aviez un autre métier?
Oui, je travaille actuellement en tant qu'électricien dans un hôtel, mais je pratique la photographie quand je suis libre, dès que j'ai du temps. Par exemple, ces 10 dernières années, je suis allé photographier les trains verts et c'était vraiment ma passion.
Les trains verts, c'est la série que nous découvrons ici, enfin que je découvre, mais qui a été exposée à Lianzhou, en Chine, et puis aussi au festival Kyotography au Japon. Racontez-nous cette série des trains verts.
J'exerce aussi un métier qui est finalement très peu payé en Chine. Et le prix très bas des trains verts, finalement, permet aux gens assez pauvres, aussi comme moi, d'aller partout en Chine, de permettre le transport en commun. Et parmi les transports en commun en Chine, le train vert, c'est vraiment le transport le moins cher. Et j'ai découvert le travail d'un photographe qui s'appelle Wang Fuchun. Il a fait une série qui se nomme Les Chinois sur les trains, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné l'envie de faire de la photographie.
Mais comment avez-vous travaillé avec cette photographie? Vous utilisiez le train pour vous-même aller travailler et vous faisiez des photographies, ou vous avez décidé de documenter ce train en prenant du temps à côté dans votre vie pour faire les photographies?
En fait, j'exerce le métier d'électricien. Donc, quand j'exerce le métier, je ne prends pas le train. Mais depuis ces 10 dernières années, dès que je suis libre, je prends ce train pour finalement aller photographier.
Alors, on est à la radio. Il faut, iPhone, que vous nous disiez ce qu'on voit dans ce train. Qu'est-ce que vous avez photographié? Qu'est-ce qui a arrêté votre regard?
Nous sommes actuellement dans une période où les lignes de grande vitesse prend le pas sur les anciennes techniques, les anciennes manières de transport. Et finalement, ces trains très très lents forment au sein de ce train des petites sociétés. Et finalement, c'est de plus en plus rare qu'on voit les gens qui prennent ce train. Et donc, c'est pour ça que j'ai photographié ces gens-là.
Mais on est d'accord, le train existe toujours.
Les conditions de ce train vert sont très très mauvaises. Par exemple, l'atmosphère qui règne dedans est insupportable. Il n'y a pas d'air conditionné. C'est pour ça que, par conséquent, la température augmente très fort. Et souvent, c'est très suffocant. Contrairement, par exemple, en hiver, il n'y a pas non plus de chauffage. Donc, il fait très très froid en hiver. Pour la distribution de l'eau à l'intérieur de ce train, on utilise un système au charbon. C'est-à-dire, on cuit de l'eau au charbon. Et donc, il n'y a souvent pas assez d'eau chaude pour donner aux personnes. Pourtant, le prix de ce train attire finalement beaucoup de population parce qu'il y a énormément de population pauvre. C'est pour ça qu'ils prennent ce train. Et souvent en Chine, il reste des parties très reculées qui ne sont pas ouvertes à l'économie. Et dans ces parties reculées, les paysans, les jeunes paysans qui veulent trouver du travail en ville choisissent de prendre ce train grâce à son prix, d'aller finalement pouvoir aller en ville pour trouver un travail. Il y a aussi, souvent dans la région du sud-ouest de la Chine, des agriculteurs qui cultivent des légumes, des bétails, mais ils habitent dans un pays très montagneux. Et donc, ils utilisent ce train pour pouvoir aller, grâce à son bas prix aussi, pour pouvoir aller en ville, au marché, pour vendre leur production. Et par conséquent, c'est aussi un moyen pour pouvoir faire vivre la famille. Le train vert est un train qui circule très lentement. Et par conséquent, les gens restent très longtemps dans le même wagon. Et c'est pour ça que souvent une petite société se forme à l'intérieur de ce train, dans un même wagon. Quand vous avez vu dans les photographies, il y a des têtes de porc, des gens qui mangent, des gens qui sont torse nus. Et finalement, c'est une quotidienneté de la vie, parce que dans le train, souvent il fait très très chaud, ça peut aller au-delà de 50 degrés dans les wagons. Et les gens ont besoin de faire leur vie. Et de plus, la Chine est un pays très très grand par rapport à France. Et c'est pour ça que souvent on a besoin de dormir et de manger. Contrairement en France, le pays est beaucoup plus petit et que vous possédez le TGV. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas besoin de dormir dans le train ni de faire des grands repas. Alors qu'en Chine, dans ce train qui dure très très longtemps, les gens, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils dorment.
iPhone Chen, je suis pas sûre de bien prononcer votre nom, je suis désolée. Comment étiez-vous accueilli dans ce train par les gens que vous avez photographiés?
从我的这组照片也可以看出,
Oui, finalement, on peut voir à travers ces photographies la place du photographe qui est le mien avec les gens dans le train. Et en fait, on peut apercevoir aussi que j'ai une communication assez aisée avec les gens. Ce n'est pas simplement les gens que je photographe, mais c'est aussi, je crée un lien social avec eux, puisque je possède finalement presque le même statut social avec ces gens-là. Et c'est pour ça que nous sentions la même chose et que nos cœurs finalement sont liés. Et c'est en sentant la même chose avec ces gens-là, c'est en unissant nos cœurs que nous faisons une meilleure photographie.
Thierry Dupin et Marie-Hélène Fauquet ont choisi l'un des titres les plus populaires en Chine, signé Li Xianluan. J'espère d'ailleurs que vous me pardonnerez la prononciation hasardeuse des noms et prénoms en chinois. Le seul nom qui ne me pose pas trop de problèmes, c'est celui de notre interprète Yago. Et Yago est patient, car vous allez le voir à la fin de notre rencontre. Tian Haifeng et moi avons vraiment du mal à nous quitter. Qu'est-ce que pour vous une bonne photographie ?
Pour moi, une bonne photographie, c'est lorsque je la sens. Et c'est souvent dès que j'appuie sur le déclencheur, c'est-à-dire que c'est au moment où je sens que c'est le moment qui est venu. Donc la photographie, ce n'est pas réfléchi. Et de plus, pour moi, une bonne photographie, c'est aussi lorsque le regardeur perçoit une émotion à travers cette photographie. Et cette photographie dialogue avec le regardeur. Et ça, c'est une bonne photographie.
Vous photographiez toujours en couleur, comme cette série-là dans le train vert, ou quelquefois, il vous arrive de photographier en noir et blanc ?
Moi, je photographie
Je considère que la photographie en tant, comme un document de la vie. Et ce que les yeux perçoivent aussi est en couleur. C'est pour ça que, à travers la photographie, je tente de capturer l'instant, la réalité la plus proche. Et c'est pour ça que toutes mes photographies sont en couleur, parce que je considère que la photographie en couleur est un document de la vie.
Vous avez donc été exposé au Japon, en Chine, maintenant en France, mais d'une façon habituelle dans votre vie, puisque vous avez un autre travail, vous êtes aussi électricien dans un hôtel, allez-vous voir des expositions de photographes? Achetez-vous des livres de photographie? Quelle est votre nourriture pour vous faire avancer dans la photographie?
Oui, souvent je participe aux expositions des autres photographes et c'est aussi en discutant, en communiquant avec les photographes que j'apprenne grâce à eux des nouvelles techniques, des nouvelles choses qui me nourrissent dans mon travail. Et aussi, j'achète souvent des livres de photographie.
Aimez-vous particulièrement certains photographes français?
Robert Capa.
J'aime bien Robert Capa, puisque c'est un photographe très connu qui a photographié la guerre.
Quand vous êtes en France, là, avez-vous envie de faire des photographies? En faites-vous souvent, facilement? Depuis que je vous vois, là, depuis quelques jours, vous n'arrêtez pas de photographier. Alors, qu'est-ce qui vous attire ici, l'œil, en France, ici, dans cette région?
Lorsque je suis en France, je garde un esprit très très curieux. Et dès que je vois quelque chose qui est étranger, des personnes étrangères, ça ouvre ma curiosité. Et lorsque je déclenche mon déclencheur, c'est comme si j'ai créé un lien, un contact avec ce monde étranger. Et finalement, quand je rentrerai en Chine, que je vais revisionner mes photographies, ça va me créer un souvenir de la France.
Je ne vous ai pas demandé si vous travaillez en numérique ou en argentique.
J'utilise exclusivement la photo numérique. Car premièrement, la photo argentique demande beaucoup d'investissement dans une pellicule et mes revenus ne me permettent pas de tout investir dans l'argentique. Et aussi, mon travail, c'est aussi de documenter la vie. Il suffit finalement de quelques clics pour documenter la vie et ça me suffit. Pour ma photographie.
Cette série sur le train qui s'appelle Green Train, elle a démarré en quelle année? Elle s'est arrêtée en quelle année?
J'ai commencé cette série de photographies, Green Train, en 2008. Et en fait, cette série est en train de... C'est une work in progress. Donc je continue à photographier ces trains. Et aussi, aujourd'hui, il en reste très peu, mais il en reste quand même en Chine. Donc j'aimerais bien les faire. Depuis la première fois que je prends le train vert, que je commence à photographier le train vert, jusqu'à aujourd'hui que je suis à Mérignac, j'ai pris en total 325 fois le train vert, et qui équivaut à 130 000 km parcourus.
Aifan, qui, la première fois, vous a dit... Alors que vous êtes électricien dans un hôtel, qui vous a dit « Tes photos sont intéressantes, il faut absolument les montrer, il faut peut-être les exposer, il faut faire un livre » Qui a été le premier à vous aider à devenir photographe, s'il vous plaît?
C'est un des photographes qui se trouve aussi dans ma ville natale, Wuxi, qui s'appelait Tang Hao. Donc ce monsieur, c'est le premier qui a découvert mes photos. Il a conseillé ses photos à un grand critique d'art chinois, c'est monsieur Bao Kun, que j'ai rencontré et qui m'a conseillé de participer au festival de Lianzhou. Et c'est là que j'ai gagné un prix photographique et qui m'a ouvert vers le monde.
Voyagez-vous beaucoup en dehors de la Chine? Là, vous êtes en France. Allez-vous dans d'autres pays du monde, AFN?
Depuis que j'ai commencé à photographier le train vert depuis 10 ans, j'ai toujours resté en Chine avec mon sac à dos, juste un sac à dos et mon appareil photo. Et donc j'ai vraiment parcouru toute la Chine. Et finalement, c'est grâce au festival de Lianzhou qui m'a permis d'aller vers le pays étranger. Mais finalement, j'aime quand même la Chine parce que je trouve que les paysans sont très très mignons et que j'adore leur vie. Et j'aimerais consacrer ma vie aussi à les documenter, à documenter leur sympathie, à documenter leur simplicité.
Justement, en parlant de paysans, vous venez, vous, de quel milieu? De quel environnement familial?
On
peut parler de mon statut social. Je suis comme les gens qui sont dans le train vert. C'est des gens qui ont besoin de travail pour pouvoir vivre. Donc, c'est des gens assez pauvres et je suis parmi eux.
Depuis le début de cet entretien, c'est assez particulier pour moi parce que vous me parlez, vous me regardez, je ne vous comprends absolument pas. Il y a Yago qui traduit fort bien. Je voudrais savoir si une de mes questions vous a dérangé ou si il manque une question importante pour vous.
Il n'y a pas d'autres questions. J'aime bien la sincérité en dialoguant et si vous avez d'autres questions à me poser, venez, je vous dirai avec sincérité, je vous dirai tout ce que je sais et si je ne sais pas, je vous dirai aussi.
Alors j'ai encore une question. Nous sommes dans une pièce, il n'y a personne, il y a vous, Yago, qui traduisez, Aifan, vous êtes là, il y a votre appareil photo qui est posé et vous avez dans la main un petit truc. Je voudrais savoir si vous êtes en train d'enregistrer notre conversation.
Oui, dans ma main, je tiens un microphone, comme vous. Et oui, j'essaie d'enregistrer toute la conversation qu'on a fait. Et en fait, c'est dans le but de rentrer en Chine, de montrer à mes amis et de faire une surprise. Parce que on m'a souvent considéré comme un électricien et je me considère moi-même comme un électricien et jamais comme un photographe professionnel. Et c'est aussi une surprise pour mes amis de savoir que la grande radio française publique m'a interviewé et ma participation à des événements comme celui-ci. Cela vous dérange que j'enregistre avec mon microphone?
Non, ça ne me dérange pas, mais vous allez entendre tous mes tout sautements, toutes mes erreurs de langage.
Non, mais pas de problème, parce que c'est le vrai de vous.
Ce n'est pas grave du tout, puisque notre conversation est sincère et tout ce qu'on dit est la vérité.
Quelle est pour vous la meilleure façon de montrer aux spectateurs vos photographies? Est-ce que c'est une exposition ou est-ce que c'est un livre?
C'est qu'un début pour la série Le Green Train et j'aimerais finalement partager ces photographies aux yeux de tout le monde et finalement pour qu'on jette un regard sur la vie des paysans et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir.
Dans le festival que nous vivons là, avez-vous apprécié d'autres travaux de photographes que vous ne connaissiez pas?
Dans cette festival photographique de Mérignac, je connaissais deux photographes, notamment Marc Nevin et Eric Pickerskin. Et je connaissais leurs travaux, notamment quand j'ai participé au festival de Lianzhou et à d'autres expositions en Chine. Et je connaissais un peu, j'ai pu dialoguer avec eux. Et à Mérignac, là, j'ai rencontré d'autres personnes avec d'autres photographies de différents styles. Et j'ai pu parler avec eux, échanger des opinions, des points de vue. Et je suis sûr que cela va me nourrir dans mes prochains travaux.
Aifan Chan, une dernière question. Avez-vous, en quelques jours, appris quelques mots de français?
Je suis très très mauvais en langue. J'ai appris aucun mot en français. Mais sauf que lorsque j'ai promené à Mérignac, j'ai souvent demandé aux gens « May I take a picture of you ?» Et dès qu'ils m'ont dit oui, je le prenais en photo. Et j'adore la sincérité des gens ici. Et comme tout à l'heure, il y a encore une heure, je prenais beaucoup, beaucoup de gens en photo.
Mais alors, pour conclure, vous pourriez juste apprendre à dire vraiment en français « Est-ce que je peux prendre une photo de vous ?» Et vous allez répéter ce que je dis. « Est-ce que je peux prendre une photo de vous ?»
您可以学这句话, 其实最后可以在法国学这句话。 Est-ce que je peux prendre une photo de vous ?»
什么?
就是我可以, may I take a picture of you? 法语。
Est-ce que may I?
Non, in French. Est-ce que je peux?
Est-ce que je peux?
Prendre une photo.
Prendre une photo.
De vous.
太难读了.
C'est trop difficile.
我觉得还是讲英文吧.
Est-ce que je peux prendre une photo de vous?
Est-ce que je peux prendre
une photo de vous?
Une photo de
vous. De vous.
De vous. Est-ce que je peux prendre une photo de vous?
Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.
J'espère que nous allons pouvoir voir cette série dans d'autres festivals en France et en Europe. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup à vous.
Je vous remercie pour cette interview et j'espère qu'un jour vous venez en Chine pour avoir l'expérience du train vert.
Je suis allée en Chine à Lianzhou il y a 3 ou 4 ans, mais je n'ai pas vu votre travail à ce moment-là. Il y a 4 ans, vous n'étiez pas exposé.
La première fois que la série Green Train a été publiée, c'était sur la revue française Fisheye.
Il se trouve que mon émission est en partenariat avec Fisheye.
Est-ce que cette année, vous allez à Lianzhou?
Normalement, oui. Est-ce que vous y serez?
Si vous allez, moi aussi, alors. J'espère que nous nous reverrons à Lianzhou.
Merci beaucoup. Merci, Iago, pour cette belle traduction. Et merci à vous encore. Et au revoir. Merci.
Merci de votre interview.
Je sais que le TGV est né en France, mais sauf qu'aujourd'hui en Chine, on construit partout de LGV, de TGV. Donc si la prochaine fois vous venez en Chine, vous allez prendre le train, ça va être comme en France.
La dernière fois, je suis allée à Lianzhou, on fait Paris-Canton, Canton-Lianzhou en car. Il n'y avait pas de ligne qui faisait Canton-Lianzhou en train. Peut-être que cette ligne est construite maintenant.
On est en train de construire une ligne ferroviaire à Lianzhou.
Mais pour moi qui suis allée à Lianzhou, c'est la première fois que j'allais en Chine. Pour moi, c'était aussi un autre monde, vraiment. Mais c'était incroyablement formidable et agréable, en tout cas.
Ouais.
Mais la difficulté, c'est la langue, quand même.
Moi aussi, je trouve que la langue, c'est un problème lorsqu'on est en étranger. Mais souvent, la meilleure langue, c'est le sourire. Donc, lorsque je demande aux gens, dès que je souris, ils me laissent prendre une photo.
Absolument, vous avez raison. Le sourire, c'est un bon passeport. Merci en tout cas à tous les deux. Merci.
Si vous venez en Chine, vous aussi, vous pouvez apprendre une phrase en chinois. 我可以跟你拍照吗?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que je peux prendre une photo de vous?
Je t'écris. C'est moi. Il est tôt encore. J'ai rêvé si fort. Le papier sous mes doigts est dur comme ton corps. Je sais. Je dors, je dors. J'ai dessiné ton nom et ton adresse. Et sur le côté, ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est banale, la petite carte postale qui fait du mal. J'ai choisi cette image, je la trouve jolie, peut-être un peu sage, à vrai dire, sans rougir, je n'ai rien à te dire,
sable adorable, du vent qui dort sur les coquillages d'or. J'aimerais te parler des champs dehors qui bronzent ensemble comme des coquillages morts. Mais là sur mes lignes, j'suis pas bien maligne, j'suis quand c'est ma faute qui cligne. J't'adore, j't'adore, j't'écris. C'est moi, oh, c'est dur encore. Je t'aime si fort. Le papier sous mes doigts, encore et encore. Je sais, je dors, je dors. Je sais, je dors.
La carte postale. Après Juliette Armanet, je vous raconte une petite anecdote. Après notre rencontre en octobre à Mérignac avec Tian Haifeng, je suis allée au festival photo en Chine à Lianzhou. J'étais dans une exposition et quelqu'un tout d'un coup me tape sur l'épaule avec un grand sourire. C'était lui. Et comme on ne peut pas vraiment communiquer sans interprète, il a sorti de sa poche un billet. C'était le billet du Green Train, du train vert qu'il venait d'emprunter pour venir nous retrouver à Lianzhou.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Changement de langue, on revient au français avec deux femmes espagnoles, photographes bien sûr, Andrea Santolaya qui est née en 82, Isabelle Munoz en 51. Isabelle parle toutes les langues, celles des humains, celles des animaux, celles du corps, le langage de la photographie, avec des procédés par exemple tels que le tirage aux platines. Isabelle Munoz, parlez-nous de votre série Album de famille. Comment a commencé ce projet avec les grands singes ?
Cette série-là vraiment vient de ma passion pour la photo. J'ai toujours photographié l'être humain et dans cette recherche de où nous venons, qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce que nous avons perdu, où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'on va laisser dans le futur à nos petits-enfants. Et j'essayais de trouver toujours ce lien à travers les tribus qui étaient en toucher. Et une nuit que j'étais dans une de ces tribus, et je disais, mais Isabelle, tu cherches, mais le vrai lien, le dernier lien ou le premier lien, ce sont les grands singes. Et c'est ça quand j'ai décidé de faire ce travail. J'aurais jamais pensé faire de la nature, parce que je pense que la nature est tellement parfaite que j'aurais jamais ajouté quelque chose. Mais bon, on peut jamais dire non, parce que j'ai découvert tellement de choses de nous, à travers eux, que c'est un vrai privilège de pouvoir le faire.
Mais concrètement, comment vous avez fait ? Où étiez-vous ? Dans quel pays étiez-vous ? Comment vous les avez trouvés ? Comment vous les avez photographiés ? Est-ce qu'il y a eu un protocole ? Racontez-nous, comment vous avez vécu tout ça ?
D'abord, c'est en série qui a eu beaucoup d'espoir et d'envie, parce que j'ai commencé cette série, j'ai eu un accident qui m'a fait stopper, et j'ai pu rêver de le pouvoir faire. Alors c'est un travail très important pour moi. Et bon, ça a été compliqué, parce que j'aime avoir d'abord cette complicité avec la personne que je photographie, mais communiquer, c'est compliqué. Alors d'abord, c'était cette complicité. Après, normalement, dans la nature, tu ne peux pas mettre une étoffe pour te séparer de la réalité vraiment et te mettre dedans le personnage. Alors ça, c'était une autre problématique. Et je voulais être avec eux, qu'on te sent, le sentir, voir le regard dans liberté. Ça n'a rien à voir. Un regard dans liberté qu'un regard d'une personne qui est dans un zoo, non? Et normalement, ce sont des espèces qui sont en Afrique, dans des lieux dangereux, au Bornéo. Mais à la fin, j'ai pu y aller d'abord au Congo, par exemple, qu'il y a deux espèces, les bonobos et les silverbacks. et après les orang-outans à Bornéo. Et j'ai pu résoudre cette grande doute de comment pouvoir parler de eux à travers une expo que j'ai vue au Prado de Rembrandt. Et quand j'ai vu sa façon de faire de la peinture, comment il mettait dans le premier plan ce qu'il voulait raconter avec la lumière qu'il voulait mettre. Et dans le arrière-plan, faire de l'ombre, j'ai dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Je veux que ça soit dans la nature, mais que la nature est presque pas présente pour que la personnalité et l'être de ce que je voulais photographier, ça pouvait se montrer. Alors, je pourrais résoudre ça. Et il faut dire aussi que grâce au grand songe, j'ai connu le Congo. J'ai connu ce qui passait pas seulement à l'est et à l'ouest. Et ça m'a pris une des thèmes que me préoccupe beaucoup, que ce sont à l'est, les femmes utilisées comme armes de guerre, les enfants accusés de sorcellerie, et qu'est-ce qui se passe par rapport à le coltan, l'or et les matières primaires qui n'ont pas de passeport, que nous ne savons pas d'où ils viennent. Ce sont des matières de sang. Alors, grâce au grand sang, j'ai pu connaître cette réalité que ça m'a vraiment bouleversée.
Je reviens juste deux minutes au Grand Singe. Cette série-là, qui comporte de nombreuses photos, elle couvre combien d'années?
Ouf. D'abord, la réalisation, ce sont 4 ans. Mais il faut dire que j'ai découvert les Grands Singes quand j'étais petite. Oui, à l'époque, il y avait un gorille blanc qui s'appelait Copito de Nieve. C'est l'unique gorille blanc qu'on connaît. Et que ça a fini à le zoo de Barcelone, parce qu'à l'époque, on lui a trouvé à Guinée, et Guinée était une colonie espagnole et tout, et je me souviendrai toujours, j'avais 13 ans, et j'étais avec ma mère, et j'ai vu le gorille blanc, qu'il était seul, et comme ils ont des sentiments comme nous, ils ont mis une petite femelle noire. Et lui, il savait que c'était lui le star. Alors la petite femelle était juste dans le coin, personne. Et quand tu arrivais, il savait qu'il allait se prendre en photo. C'est pas croyable. Hein. Et il posait pour toi. Et il faisait aucune attention à la petite. Et quand j'ai commencé à faire la série, j'ai dit, tiens Isabelle, mais cette série est dans ton cœur depuis que tu étais petite. Quand tu as commencé la photo, tu l'as commencé aussi avec Copito de Nieve, non? Alors il y a un lien très spécial.
Isabelle Munoz, vous travaillez de quelle façon? Toujours en argentique? Ou pas? Vous faites vous-même vos tirages? Ou pas? Vous avez un tireur? Ou pas? Ça se passe où?
Ça, c'est une bonne question parce que j'aime tirer mes propres platines. Mais par contre, je sais reconnaître qu'on ne peut pas tout faire. Par exemple, tout le monde digital, qui pour moi est beaucoup plus compliqué, parce que je viens de le monde argentique. J'ai un tireur dans les studios, parce que je pense qu'il y a des personnes qui font les choses beaucoup mieux que toi. Mais j'aime contrôler, et on tire tout dans les studios. Et j'y vais d'une à l'autre. Je n'aime pas être... Peut-être c'est parce que je viens d'une génération que la liberté a été très important, et j'aime être libre.
De quelle génération parlez-vous?
De beaucoup, je suis déjà très âgée. Et à l'époque, en Espagne, on vivait une dictature, et en plus, être femme, et c'était un peu différent. Alors peut-être c'est pour ça que la liberté est tellement importante pour moi.
Là, pendant que vous parlez, Isabelle Munoz, vous regardez Andrea Santolaya, qui est là. Elle aussi est espagnole. Vous êtes espagnole, Andrea, ou non? Vous êtes du Venezuela?
Moi, je suis espagnole. J'étais née à Madrid, mais c'est vrai que pendant toute ma vie, je bougeais chaque 3 ans de pays en pays. Donc, je me sens plutôt européenne, avec un côté vénézuélien, parce que ma grand-mère, elle est vénézuélienne.
Vous souvenez-vous du jour ou du moment où vous avez rencontré Isabelle?
Mais oui, bien sûr, c'était l'expérience la plus importante de ma vie. c'était un moment important parce que moi, j'avais croisé une femme, une personne avec le cœur, avec l'expérience et pouvoir franchement rencontrer des lieux et des expériences tout à fait différentes à la mienne. Et c'était à travers la photo. Et Isabelle m'a montré ça. Comment les discours peuvent être intéressants et comment les caméras peuvent être inutiles pour rentrer dans un monde différent avec le cœur, toujours avec le cœur. Ça, c'était pour moi une expérience que moi, j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais réfléchi à la photographie. Qu'est-ce que c'est la photo? La photo, c'est une manière d'être dans un monde entier et documenter et pouvoir le montrer au public.
Alors, j'avais envie de parler de votre série dont vous allez nous donner le titre.
Oui, le titre, c'est Waniku ou l'eau grande. Pourquoi? Parce que Waniku, dans l'ethnie Wara, c'est une ethnie la plus ancienne du Venezuela. Ça s'appelle Waniku. C'est la lune. Et la lune, c'est l'astre qui fait bouger de l'eau. Donc, tout est en cercle. Le Warao, que c'est la tribu ancienne, la plus ancienne du Venezuela, l'étymologie, ça veut dire les gens de l'eau. C'est ça.
C'est une tribu qui existe aujourd'hui?
Oui, c'est une tribu qui existe aujourd'hui, que c'est très difficile de pouvoir rentrer, parce que le pays est dans un moment politique, économique, social très mauvais. Mais moi, je ne voudrais pas montrer ça, mais montrer plutôt l'énergie et toute l'ogérine d'un monde tout à fait différent à l'autre au Venezuela.
De l'énergie, en voici encore dans Regardez voir, car paraît-il qu'avec ce titre de Jane, vous allez danser tout l'été.
Isabelle Muñoz, je sais bien que ça va être délicat de parler du travail d'Andrea Santolaya, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans son travail? Comme elle est à côté, vous n'allez pas la critiquer.
Non, mais si j'aurais dû la critiquer d'une belle façon, je l'aurais dit. Mais depuis que je la connais, elle m'a vraiment frappée. Et j'aime d'abord le respect. L'amour, parce que je me sens très proche d'elle. Elle ne peut pas photographier rien qu'elle n'aime pas. Et sa générosité aussi, parce qu'elle aime donner des cours, mais la façon comment elle transmet la magie des différentes personnes, le respect qu'elle a à l'être humain. Parce que quand je t'entendais parler de tes tirages, elle aussi aime faire des essais pour essayer de trouver de nouvelles façons de s'exprimer. Elle a besoin de toucher, que je sens tellement proche. Et il y a une autre chose que quand tu le racontais, et je le sens aussi tellement mienne, non, que nous sommes maintenant dans un moment que, avec la photographie, tu peux arriver à la perfection. L'image doit être là, non, mais techniquement, on a une perfection totale. Et ça a une magie qui ajoute avant que tu partes de ton image. Et je me sens très proche de toi, parce que avec un grand décalage d'âge, j'espère voir ton futur, voir où tu vas arriver, parce que tu as la même curiosité et une façon très spéciale de raconter et de partager avec l'autre. Et ça, j'aime beaucoup.
Isabelle Munoz, vous venez de recevoir un grand prix.
Oui, c'est le prix national de la photo. Et c'est un cadeau. Et vraiment, je peux le dire, il y a tellement de gens qui méritent ces prix que j'ai eu la chance de l'avoir cette année, peut-être parce que c'est aussi en question d'âge, mais qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment méritent ces prix. Il y a une chose qui me préoccupe beaucoup, que c'est la jeunesse. La jeunesse en général, mais surtout aussi dans la photographie, non ? Et comment ils vont pouvoir sortir cette nécessité, cette espèce de volcan qu'on a pour partager, pour raconter, non ? Et je pense aussi que la vie, c'est la meilleure manière d'inspiration. Ta vie, la vie de l'autre, et c'est toujours à travers la transmission orale, par exemple, qui te fait rêver, la lecture, la musique, la photographie, le cinéma, tout. Moi, je ne suis jamais contente, jamais assez. Alors, le plus que je peux connaître, d'ouvrir un livre, de connaître dans un festival, j'ai besoin. Et c'est une façon d'être vivante.
Et vous, Andrea Santolaya, j'imagine qu'il s'agit de la même chose, de la rencontre, de la recherche de l'autre sans arrêt.
Mais oui, bien sûr, et aussi en même temps, c'est important de dire que moi j'étais née dans un monde culturel très, très important, parce que ma grand-mère, depuis 40 ans, elle a eu une galerie d'art qui s'appelait Galeria Sen. Donc une fois que j'étais née, il y avait eu des écrivains, des artistes, des poètes, partout. Donc pour moi, ça c'était la nature de l'être humain et de pouvoir être ici, pouvoir partager. C'était pas seulement la photo, c'était tout autour du monde de la culture qui fait que nous on soit comme ça.
Une galerie en Espagne.
Une galerie en Espagne après Franco. Donc c'était une galerie très très différente à tout, avec toute la movida madrilène.
Et alors pendant qu'on y est, Isabelle Munoz, vous êtes née dans quel milieu? Un milieu aussi culturellement riche au niveau de artistique?
Oui, c'était un niveau culturellement riche, mais j'ai voulu en vastiguer. Ce n'était pas comme toi à travers la galerie, mais j'ai découvert cette monde peu à peu. C'est un cadeau qui m'a donné la vie et peut-être je l'apprécie beaucoup pour tout ça, parce que j'ai pouvoir choisir, c'est un privilège pour moi.
Andrea Santolaya, pour conclure, on va prendre une image de votre série Wanikou où l'eau gronde et vous allez nous la montrer. Sachez qu'on est à la radio à France Inter, donc les auditeurs vont fermer les yeux, imaginer, et ensuite ils pourront aller sur le site pour voir la photo en réalité.
Oui, bien sûr. Donc, on regarde une image d'une femme Warao dans la communauté de Muraco. Muraco, c'est la communauté plus ancienne de cette rivière Orinoco avec les Warao. Les Warao, comme j'avais dit au début, c'est la tribu de l'eau. Et moi, je voulais faire des portraits des femmes. Cette femme, elle habite à Muraco. Muraco, c'est la plus ancienne communauté. Alors Inoko, elle porte une robe. C'est une robe qui a été mise par les missions. Et donc maintenant, c'est difficile à trouver ça parce que tout a changé. Donc pour moi, c'était important de comprendre de quelle manière la culture Warao a pris la culture occidentale pour la mettre dans leur culture propre. Donc c'est une image très onirique avec les yeux fermés. Et elle s'élève dans l'eau. Ça, c'est très important pour pouvoir comprendre. C'est pour ça que tout le projet s'appelle « Où l'eau gronde ». Parce que Wanikou, ça veut dire la lune. Et la lune, c'est un astre qui tout recommence et fait un cercle. C'est la vie et c'est la mort en même temps.
On voit l'eau, on voit cette femme qui flotte.
Moi, comme espagnole, moi, avec la culture que nous avons en Occident et l'interprétation de la mythologie, moi, j'ai beaucoup fait des recherches pour pouvoir comprendre qui ils sont. Mais ce n'était pas un projet anthropologique ou sociologique, non. C'était une interprétation. Donc, dans un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui est la matière plus importante de voilà, c'est de l'eau. Et moi, j'avais fait penser à l'Ophélie de Millet. Et je me suis dit, ah, elle porte aussi des vêtements. Elle s'est fait laisser tomber dans l'eau. Donc moi, j'avais une idée et je voulais le faire avec eux et leur partager. Donc à la fin, c'était un dialogue entre eux. C'est important, ce n'était pas un rituel, c'est un portrait d'eux dans ce milieu.
André, alors avez-vous montré les photographies?
Oui. C'est ça une chose que moi j'avais pris d'Isabelle. C'est très important pour pouvoir partager. Donc une fois que je suis allée à la rivière Orinoco, j'avais aussi un appareil numérique. Donc chaque fois, jusqu'à la fin, je suis allée dans chaque communauté et chaque personne a eu son petit portrait, que c'est un trésor pour eux.
Merci Andrea Santolaya, Isabelle Munoz. J'ai envie de vous demander si vous avez montré les photographies des grands singes aux grands singes. Et s'ils ont eu des réactions. Non mais vous riez,
mais... Non, mais c'est vrai, j'ai essayé. Il faut dire la vérité, avec Malabo, que j'ai eu une relation très spéciale. Mais Malabo, comme j'étais seule, son amour n'était pas avec moi.
Attendez, qui est Malabo?
Malabo, c'est le grand gorille. Il a 17 ans et qui habite dans le zoo de Madrid, qu'il a été né dans le zoo de Madrid. Alors, il ne connaît pas la liberté. Et j'avais une relation très proche avec lui, parce qu'en plus, je connaissais qu'il était amoureux de sa gardienne, de Sandra. Alors, chaque fois, toutes les images, le regard était pour Sandra. Mais quand je lui ai montré le portrait, il n'a rien fait. Il se tournait parce que Sandra n'était pas là, il était fâché. Alors, il faut retourner avec Sandra et son portrait une autre fois.
Merci beaucoup Isabelle Munoz, au revoir et bel été à vous.
Merci beaucoup, merci bien.
Merci beaucoup à vous et j'espère qu'on se verra bientôt et la photographie peut nous unifier encore une fois.
Absolument, merci Andrea Santolaya. Andrea Santolaya a un site, andreasantolaya.com. Isabelle Munoz aussi, isabellemunoz.es. D'ailleurs, Isabelle Munoz sera exposée dans la prochaine édition du festival Planche Contact à Deauville en octobre prochain. Elle sera aussi exposée à la galerie à Paris Esther Vorderhoff en octobre. Et puis pour les livres, procurez-vous le catalogue de l'exposition qui a eu lieu à Madrid récemment, L'anthropologie des sentiments, édité par The Red Eye. Sinon, achetez ou trouvez un des nombreux livres plus anciens avec des textes de Christian Cojol, Isabelle Munoz, aux éditions La Fabrica. Tiens, iPhone, lui, n'a pas de site, mais il est sur Facebook. Et vous allez sur la page Regardez voir avec franceinter.fr pour retrouver tous les liens, toutes les photos et toutes les bonnes adresses. Et merci bien sûr à Yago, notre interprète. Cette émission sera en podcast, bien sûr, dans un instant. Marie-Hélène Fauquet l'a réalisée. Perrine Malinge est attachée de production et compose les pages Regardez voir sur franceinter.fr. Thierry Dupin signe la programmation musicale et à la technique, Valentin Azan-Zielinski. Je vous donne rendez-vous demain à 15h avec le photographe Pierre de Vallombreuse pour d'autres photographies. Juste après les informations, vous avez rendez-vous avec Johnny, une série de médias francophones publics. Appelez-moi Johnny, bel après-midi sur France Inter.